Ils sont de moins en moins nombreux. Les Français les aiment, leur cherchent des conjoints, mais leur demandent aussi des comptes. Qui sont-ils? De quoi est fait leur quotidien? Pourquoi exercent-ils ce métier? Et d'ailleurs, est-ce vraiment un métier? Les agriculteurs nous nourrissent, façonnent nos paysages. Pour mieux les comprendre et mieux apprendre à les aimer, on va prendre le petit déjeuner avec eux et essayer de mettre nos pieds dans leurs bottes. Une matinée ensoleillée de mai, je suis allée à la rencontre de Nathalie, agricultrice elle aussi solaire. Avec ses années d'expérience, elle analyse avec bienveillance et humanité son parcours d'agricultrice et son apport sur la ferme familiale de son mari. Sous son apparente douceur, Nathalie cache des convictions fortes, le souci de l'autre, l'engagement, l'importance de la vie personnelle. Elle a réussi à instituer dans sa famille l'importance de ses moments à eux, les vacances notamment. De ses convictions a découlé un engagement auprès de la Mutualité Sociale Agricole qu'elle prend à cœur sur son territoire qui lui est si cher. Son troupeau de brebis laitières, elle et son mari le conduisent en agriculture biologique depuis quelques années par conviction et pragmatisme. Dans son joli coin d'Aveyron, sur les monts du Lévézou, nous avons parlé pâtisserie, sérénité et prévention. Allez, on essaie ses bottes ? Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es ?
Alors, je suis Nathalie Chauchard, j'habite sur le Lévézou, je suis éleveuse de brebis laitières avec mon mari, on est en GAEC. Voilà, on a une exploitation familiale et on travaille tous les deux ensemble.
Ok, tu dirais que tu es quelle agricultrice ?
Je suis une agricultrice qui s'est faite à l'agriculture en fait, parce D'accord. que j'avais pas prévu d'être agricultrice.
Ok, voilà. Intéressant, on va en reparler. D'accord. Et alors, petite question rituelle, comment elles sont tes bottes ?
Alors moi, j'aime pas trop les bottes. D'accord. Je suis plutôt basket ou chaussures de rando, mais plutôt des bottines. Alors.
Ouais, avec des brebis, c'est plus facile aussi. Ouais. Du coup, on va repartir du début. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton enfance, à quoi elle ressemblait ?
Alors moi, je suis née à Millau, donc j'ai une enfance à la ville, quoi, petite oui. ville, hein, on reste quand même dans du rural. Donc mes parents, mon père était pâtissier, ma mère faisait des ménages. Et en fait, c'est mes grands-parents qui étaient agriculteurs, ouais. donc je passais souvent toutes mes vacances mmh. d'été sur le Lévézou, parce que j'avais ouais. des oncles et tantes à la campagne, et j'adorais ça, ouais. ouais.
Ils avaient des brebis aussi
Non, plutôt des vaches.
D'accord.
Des vaches okay. laitières, ouais. Ouais.
Sans dire ton âge, mais c'était à peu près à quelle période ça peut être
dans les années 80, 90.
Ok, ouais. d'accord. Et du coup, à ce moment-là, ça représentait quoi pour toi, justement, cette ferme des grands-parents ou des oncles et tantes? Enfin, t'avais quelle image?
Ouais, c'était la liberté, c'était passer du bon temps avec les cousins, faire des bêtises, mais aussi être auprès des animaux, ouais. Voilà, tout ça, ouais. Okay. C'était des bons moments.
Et alors, ado? Comment ça se passe? Comment tu évolues?
une adolescence normale, ouais, voilà, le lycée, le collège, un bac général, voilà, après des études à Montpellier, en fac.
Alors, t'as fait fac de quoi?
J'ai étudié la biologie.
D'accord. Dans le quotidien, quand même.
Ouais, hein. J'avais envie d'être instite, et puis j'ai rencontré Laurent, et puis voilà. D'accord. Il y a plein de choses qui ont changé par rapport ouais. à ça, parce que je suis revenue en Aveyron, et je voulais rester en Aveyron. Ouais. Donc voilà, après le chemin a fait que, quand on a eu nos enfants, après j'ai décidé voilà de m'installer quoi et de rester vraiment à la ferme.
Et donc entre ce moment où t'es à fac de bio à Montpellier, donc à ce moment-là tu rencontres ton futur mari, tu arrêtes à quel niveau de tes études et qu'est-ce que tu fais professionnellement après?
Alors j'ai continué jusqu'à la licence ouais. et puis après j'ai préparé le concours d'instit, mais je l'ai préparé en candidat libre. J'ai eu l'écrit mais j'ai pas eu l'oral ouais. et j'ai pas voulu continuer. Donc après j'ai cherché du travail. J'ai travaillé à la mairie de Millau pendant 3-4 ans, mmh. je pense, dans le service social. Ça m'a bien plu.
Ouais. Ça va peut-être déterminer, on ouais. en parlera ton et engagement
c'est
aujourd'hui.
Jusqu'à ce que, on s'est mariés, on a eu un premier enfant. Et c'est après, voilà, à l'arrivée de ce premier enfant que je me suis dit, qu'est-ce que je veux pour ma vie, pour mes enfants. Et donc là, c'est là que j'ai pris la décision de rester à la ferme, de me former aussi.
Mmh. Ouais.
Et voilà, et pour profiter aussi de la vie familiale, parce que ouais. ça permet ça aussi, ouais. L'agriculture. Et puis être auprès Oui, auprès de la nature, des animaux, ça me plaît, quoi.
Ouais.
C'était aussi dans ma
formation,
c'est ça, tu
vois. Oui, oui, il y a un lien, ouais.
Ouais,
ouais. Il y a un dénominateur commun et la famille a fait que ça a été le, un peu le déclencheur.
Je te dirais que quand même, parfois la ville me manque. Et c'est pour ça que être engagée, tu vois, sortir, voir, voir des personnes, ça c'est important pour moi. Ouais. C'est dans mon équilibre.
D'accord. Ouais, c'est rigolo, tu vois, parce que c'est rare quand même qu'on nous le dise souvent, une espèce d'adoration de la campagne comme ça. Et...
Ah non, non, moi je pense qu'il me faut les deux, quoi.
Ouais.
Il me faut les deux. Si au bout d'une semaine, j'ai vu personne,
oui.
Tu vois où je suis, quoi.
Ouais,
c'est
ouais.
Vraiment un lieu dit, il n'y a aucun voisin. Si je vois personne, là, non, ça va pas, quoi. Il faut que je parte.
Ok. D'accord. Tu fais le choix de devenir agricultrice. Tu te formes. Qu'est-ce que tu... Alors, la biologie, a priori, tu devais maîtriser un peu.
Ouais.
Mais sur quoi tu as ressenti le besoin de te former et qu'est-ce que tu as fait comme formation?
Alors, j'ai fait un BPREA, mais c'était surtout...
Donc, c'est un diplôme en un an,
oui.
En un an qui te permet d'avoir un niveau bac, en fait.
Voilà,
ouais,
c'est
okay.
Ça. Et en fait, ben, c'était pour pouvoir m'installer, parce que sinon, j'avais pas de capacité agricole.
Ouais, donc tu pouvais pas avoir les aides à l'installation.
Voilà. Okay. Voilà. Ça m'a beaucoup aidée, parce que moi, c'était le côté technique. Si tu veux, il y avait beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits en agricole. On travaille ensemble, c'est familial, mais tu vois, ça devrait être inné, quoi.
Oui.
Quand tu y es né, quoi. Moi, mon mari, mes beaux-parents, c'est quelque chose qu'ils avaient toujours fait comme ci, comme ça. Et moi, ça me paraissait pas simple, tu vois, des fois.
Ouais.
Et donc, de l'étudier, tout ce qui est technique, bon, ben, tout ce qui est aussi agronomie.
Ouais.
Agronomie, et puis aussi, ben, la brebis, quoi, tu vois, tout ce qui est alimentation. C'était important, ouais, je pense, de se former sur
et
ça.
Et est-ce qu'à ce moment-là, justement, donc, ton mari travaillait avec ses parents?
Oui.
Coup, ouais. Quand toi, t'arrivais avec tes connaissances théoriques, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où il y a eu des petits frictionnements, on va dire?
Il y a des questions, tu sais, par rapport aux rations, par rapport...
Et au final, tu remets en cause...
Est-ce que...
Tu remets un peu en cause le truc.
Ouais, ouais. Oui, oui. Bon, mais ça, c'est bien aussi, parce que du fait aussi d'être avec d'autres étudiants et qui, quoi, d'autres personnes qui étaient avec moi pour s'installer, c'est vrai qu'on échangeait beaucoup entre nous et on voyait d'autres méthodes, et ça permet aussi d'avancer, quoi.
Ouais.
Sur sa ferme aussi, quoi.
Ouais, ouais. Du coup, tes remarques, elles étaient bien prises ou c'était ça va?
Oui, ouais, c'est quand même. Ouais, ouais.
Ok. Et justement, du coup, alors tes parents qui sont pas du milieu agricole, est-ce que tu leur as annoncé, enfin, comment ils ont réagi quand ils ont appris que tu allais devenir agricultrice?
Alors, je te dirais que c'est venu avant. Moi, c'est venu quand j'ai rencontré Laurent, parce que maman, eh bien, elle venait d'une ferme. Ils étaient 8 enfants, une petite ferme où, tu sais, ça avait été c'était difficile les années 40, 50. Et je pense qu'elle voulait pas ça pour moi, tu vois. Elle avait pas cette image... Et ça a été un peu compliqué, mais au jour d'aujourd'hui, maintenant, elle se rend compte que je suis heureuse, que voilà, j'ai pu élever mes enfants et en profiter, que je m'épanouis là où je suis. Donc ça c'est important, ouais. Mais c'était plus ma mère, je pense, qui avait une réticence parce que justement, elle connaissait, elle avait une image d'une enfance difficile.
Oui, oui, oui. Ben, sur les milieux ruraux dans les années 40, quoi. Ouais, ouais. Et ton père, t'as dit, il était pâtissier, il avait sa pâtisserie ou
Oui.
Donc du coup, est-ce que lui, il a vu le côté un peu chef d'entreprise? Aussi que t'allais aussi devenir chef d'entreprise ou est-ce que ce truc-là il l'a pas du tout
Si je pense oui. Et puis il se rend compte aussi des difficultés qu'on peut rencontrer en tant que chef d'entreprise du temps qu'on consacre à ça quoi et ben parce que en pâtisserie par exemple tous les week-ends étaient consacrés au travail la famille passait après et donc tout ça il connaît quoi il connaît le côté astreinte qu'on a nous en élevage Oui, c'est vrai que pour lui, ça lui parle aussi, ouais.
Et est-ce que dans ta relation, justement, à cette astreinte, à ce volume horaire, parce qu'on dit souvent que les agriculteurs, ils travaillent beaucoup, mais ils ont surtout, en fait, une grosse amplitude horaire, quoi. Le fait d'avoir été élevé par avec un papa qui était indépendant, enfin, entrepreneur, quoi, qui était pas salarié, tu sens que ça a été plus facile, en fait, d'accepter cette astreinte-là?
Ouais, peut-être, tu vois, je m'étais jamais posé la question. Mais je pense que ça a dû être plus simple pour moi.
Et donc, du coup, au moment où tu deviens agricultrice, pareil, donc tu étais installée, j'imagine que tu avais des copines quand tu leur as un peu annoncé que tu allais devenir agricultrice. Quelles ont été les réactions autour de toi?
Je sais pas, il n'y a pas eu de... Non, il n'y a pas eu de... Ouais. Parce que c'était, comment dire, c'était le chemin de ma vie. Je sais pas comment t'expliquer ça, tu vois.
C'était naturel, ça semblait naturel.
Voilà, ça semblait naturel parce que, voilà, c'était... Ouais, je ne saurais pas l'expliquer.
Donc justement, tu deviens agricultrice. À ce moment-là, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ça y est, je le suis. Et si s'il y a eu ce moment-là, c'était quel moment? Et quelle est la première grosse décision que tu as eu à prendre, toi?
Ah, ça
t'as le temps de réfléchir.
Ça s'est fait petit à petit ouais. Parce que j'ai été conjoint collaborateur. Tu vois, j'ai eu des périodes, je ne me suis pas installée tout de suite. Donc, oui, le fait d'être chef d'entreprise, non, moi, ça m'a pas... Je ne me suis pas dit, ah, ça y est, je suis... tu vois, je suis...
Ouais.
Non, parce que c'était... ça se faisait petit ouais. à petit. Et les décisions, on les prend toujours à deux.
Ouais. Vous faites des réunions, du coup?
Ouais, mais tu sais, quand on est en couple, les réunions...
C'est ça le problème, c'est que des fois les réunions sont
c'est tout le temps, ouais. C'est à table, c'est voilà. Mais c'est vrai qu'on échange beaucoup. J'aime qu'on en parle, que chacun donne son idée et qu'on parte pas sur quelque chose que les deux ne veulent pas quoi. Il faut que vraiment on fasse ce consensus et que ça simplifie notre vie quoi. Il y a notre vie perso qui est importante pour moi.
Ouais. Et ça justement
par rapport à ça aussi.
Tes beaux-parents, ils étaient sur l'exploitation quand toi tu t'es installée?
Non, mes beaux-parents, ils étaient à la retraite.
D'accord, ok.
Mais ils étaient toujours
oui,
plus ou moins
comme
là.
Comme tous les grands-parents, enfin, comme tous les...
Oui, ils nous aidaient, voilà, ouais.
Justement, donc toi qui n'es pas du milieu agricole, tu le dis, c'était important pour toi la vie perso. Est-ce que tu as retrouvé chez ton mari aussi ce même degré d'importance pour lui qui avait grandi dans ce milieu-là ou finalement...
Non, mais je le lui
ouais,
ai...
Tu le lui as inculqué.
Ouais, je le lui ai un peu inculqué, quoi, petit à petit.
Ouais.
Mais c'est vrai que... Parfois, il a fallu, je disais qu'on décidait les choses ensemble, mais il y a des fois des choses, comme les vacances, par exemple, quelque part, pas les imposer, mais bon, ben, il faut dire, ah bon, ben, tu vois, là, de telle date à telle date, j'ai réservé, et on trouvera quelqu'un, parce que sinon, si on attendait toujours, on trouvera pas quelqu'un, il y aura toujours quelque chose qui fait que, on partira pas quoi.
Ouais.
Donc voilà quelque part, moi j'organisais les choses pour que ça se fasse hein, et oui je l'ai fait évoluer là-dessus quoi.
Ouais.
Puis je l'ai amené à réfléchir voilà sur prendre du temps avec nos enfants, prendre du temps pour nous parce que voilà pas se charger en travail. Il y a le travail mais il y a aussi la vie perso. Il faut qu'on avoir du temps pour tout, quoi.
Ouais, ouais, ok. Si tu pouvais dire un truc à Nathalie de 15 ans aujourd'hui, tu lui dirais quoi?
Je dirais, ouais, te tracasse pas quand même, ça va aller, quoi.
Ouais.
Parce que l'adolescence, c'est pas simple, ouais. On se fait une idée de la vie adulte qui est peut-être, voilà. Et puis en fait, c'est épanouissant, la vie adulte, quoi.
Ok. Donc tu l'as dit.
Plus que l'adolescence,
oui, c'est sûr. Tu l'as dit, donc t'es dans un coin un peu isolé sur le Lévézou. Alors pour les gens qui nous écoutent qui sont pas d'Aveyron, est-ce que tu peux expliquer un peu où c'est le Lévézou, comment c'est, et puis après nous décrire un peu ta ferme et qu'est-ce qu'on voit autour, parce que moi je vois par la fenêtre. Mais
alors c'est un plateau, on est à peu près 1000 mètres d'altitude, on est entre Millau et Rodez. Sur le Lévézou il y a les lacs, souvent ça parle aux gens qui viennent l'été. Moi, je suis sur la commune de Vezin, donc on a un château. On est à 7 km et on est dans un lieu dit, qui s'appelle les Fabres. Et on est vraiment tout seul. Alors, c'est très vallonné. On a beaucoup de parcelles en pente.
Je confirme, je les vois. Il y a une équipage
sacrée. Oui, c'est un peu périlleux pour les tracteurs. Quoi. Il faut être habitué aussi à conduire. D'ailleurs, c'est pour ça que moi... Je conduis pas trop, voilà. Et voilà, c'est un beau paysage quand même, surtout en ce moment-là, au printemps, c'est vraiment vert.
Ouais. Et vous avez de la neige l'hiver?
De la neige, oui, on en a, mais beaucoup moins, quoi. Les premières années où j'étais là, il y en avait plus. Là, on en a, mais une semaine dans l'hiver, quoi, c'est pas...
Tu l'as dit, du coup, quand il y a les tracteurs, tu dis c'est pas évident. Tu arrives quand même ou t'as c'est une
ouais,
partie
alors,
que t'as
en fait,
un peu déléguée
quand
même.
Je me suis installée, tu sais, il y avait quelques formations de proposer là... Et donc j'avais pris conduite du tracteur, donc j'ai fait ça pendant une semaine, ça m'a beaucoup plu, mais ça me plaît en fait de conduire, j'adore conduire la voiture, tu vois. Donc là je conduis le Manitou, pour faire 2-3 bricoles, mais après le tracteur, non, j'ai pas trop pris le pas parce qu'aussi, Laurent le fait et ça s'organise comme ça, on a un peu chacun nos tâches, et bon après s'il y a une tonne à eau à amener à un champ, ça voilà, je peux l'aider à un moment, mais je vais pas faire les travaux dans les champs.
Ouais, d'accord.
Ça, c'est un peu... Ouais.
Et du coup, vous vous êtes répartis comment? Donc lui s'occupe plutôt des travaux des champs et toi, tu t'occupes de...
Moi, je m'occupe plus des animaux, je m'occupe de la traite, Après, qu'est-ce que sortir les animaux,
ouais, voilà, bah, la gestion du troupeau, c'est
voilà, ouais, ouais.
C'est déjà un boulot.
Et après, tout ce qui est paperasse aussi.
Ouais. Ça, malheureusement, c'est souvent, ouais. C'est comme souvent aux femmes. Ouais. Bizarrement. Tu traites des brebis laitières. Il sert à quoi le lait que tu produis?
Alors, le lait qu'on produit, il sert à fabriquer des yaourts. Alors, le lait, il part à côté de Bordeaux, à la laiterie Le Petit Basque. Okay. Donc, voilà, ils font des yaourts au lait de brebis. Ils produisent aussi tous les yaourts de marque distributeur.
Ok, d'accord. Donc, il y a des chances, si on mange un yaourt au lait de brebis, que ce soit ton lait, quoi.
Voilà, voilà.
T'as combien de brebis, du coup?
400 environ.
On a vu pas mal de gens qui sont dans le rayon Roquefort sur le podcast, donc j'invite tout le monde à écouter. Vous avez un agnelage aussi par an qui est au même, oui, à un moment sanctuarisé, et vous trayez toute l'année ou vous vous arrêtez aussi à un moment?
Non, on arrête, ouais.
Ouais.
On arrête et c'est très appréciable.
Ouais.
C'est, ouais.
Vous arrêtez, c'est vous trayez de quel...
Alors en fait, nous on est très tardif, donc on a nos agneaux en février-mars, ouais. On commence à traire en avril.
D'accord.
Et on finit de traire mi-novembre, fin novembre.
Ton lait, justement, tu dirais que tu le produis comment, si tu devais expliquer?
Je le produis comment? Ben, je nourris mes animaux de telle façon qu'elles produisent du lait le meilleur possible, avec la marchandise qu'on récolte dans les champs.
Vous produisez, c'est vous qui produisez l'alimentation de vos brebis?
Oui, après, ouais. On achète un petit peu, mais très peu, puisqu'on est en bio, donc
d'accord.
Il faut être quand même autonome,
okay,
le plus possible. Et, donc, voilà.
Du coup, vous êtes en bio depuis combien
depuis
de temps?
5 ou 6 ans, je pense, ouais.
D'accord,
ouais.
Ok. Et vous avez fait ce choix parce que c'était important pour vous de passer en bio, c'était économique, c'était...
Oui, il y avait une opportunité à un moment, parce qu'on a changé de laiterie, et voilà, il y avait un marché en bio, ils recherchaient des producteurs, donc on s'est posé la question, on a fait des formations, ça nous a plutôt intéressés, ouais. Et donc, voilà, on a franchi le pas.
Okay.
Bon, ça nous a permis aussi de faire évoluer l'exploitation, parce que un de mes oncles, justement, a pris la retraite, il nous a proposé 20 hectares, et donc c'est ces 20 hectares aussi qui nous ont permis de passer en bio,
d'accord,
pour être plus autonome. Et...
Okay. Concrètement, sur votre travail, on va dire au quotidien, mais à l'année, en fait, ça a changé quoi de passer en bio? Qu'est-ce que vous faites différemment? Qu'est-ce qui est resté?
Alors,
la même chose?
Je dirais que ça n'a pas changé grand-chose.
Okay.
Dans la tête des gens,
oui,
quoi. Souvent, on pense que c'est compliqué de passer en bio, que c'est... Je pense qu'en Aveyron, les élevages, bon, la conduite agricole fait qu'on est quand même proche du bio, quoi. Mmh. Et ça a été plutôt simple. C'est ce qui est plus difficile, je pense, c'est la conduite des parcelles, quoi.
Ouais.
Voilà, tout ce qui est agronomie, ça demande un peu plus de... C'est plus technique, quoi.
Mmh.
Mais après, moi, pour les animaux, je trouve que c'est beaucoup plus sain. Ouais. On utilise beaucoup moins les produits systématiques qu'on n'utilise pas systématiquement, donc on n'en utilise pas, peu. Moi, je me suis mis à l'homéopathie.
Ouais.
J'utilise aussi un peu les huiles essentielles, moins quand même que l'homéopathie. Voilà, donc on se forme à autre chose.
C'est ça.
Et ça fait aussi, comment dire, ça motive. Ça motive parce que, voilà... on fait des choix et c'est toujours bien aussi de prendre de nouvelles décisions pour l'exploit et d'avancer, quoi.
D'accord. Justement, sur l'homéopathie, par exemple, sur quoi tu vas intervenir sur tes animaux et de l'homéopathie? Puisqu'on en a jamais parlé pour le coup, donc.
Alors, j'interviens beaucoup aux agnelages.
D'accord.
Aux agnelages, par exemple, une brebis qui arrive pas à se délivrer,
oui,
une brebis qui a du mal. L'agnelage se passe difficilement. Bon, voilà, on peut donner de l'homéopathie pour que ça se passe plus sereinement. Pour les agneaux, des fois, qui ont des traumatismes à la naissance.
Ouais,
Il y a plein de petits trucs.
Ouais.
Un agneau qui veut pas téter, qui a du mal à...
Ouais.
La succion veut pas s'exprimer. Donc là, on peut utiliser l'homéopathie. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui aident beaucoup.
Ouais.
Et après,
et
ça,
du coup,
ça
tu,
permet...
Concrètement, tu leur donnes comment? Parce que
des granules.
Ouais, les granules.
Mais en fait, un granule par agneau, 3 granules par brebis.
D'accord.
Et c'est très simple.
Et tu les leur mets dans la bouche.
Voilà.
Et... Okay.
Ouais.
Ah,
après, il faut faire attention, la brebis mord. Donc,
je me suis fait mordre
une fois. Ça m'a...
Oui.
Je fais attention.
J'imagine, ouais. Ah ouais, je savais pas qu'une brebis, ça mordait.
Ah oui, ça fait mal.
Oui, ok. Je ne savais pas. Et du coup, tu dis les huiles essentielles, tu les utilises un peu moins parce que tu t'es moins formée, parce que...
Oui, parce qu'en fait, l'homéopathie, il y a des groupes d'homéopathie, on se retrouve en formation tous les ans.
D'accord.
Et on renouvelle notre formation et on met en commun nos pratiques et on voilà.
Ouais.
Donc ça fait moi ça fait 5 ans à peu près que je suis ouais. dans ce groupe, donc voilà, l'homéopathie petit à petit j'ai avancé, tandis que les huiles essentielles, j'ai fait qu'une formation et je les utilise moins.
D'accord. Ouais. Quand tu fais des formations homéopathie, il y a des vétérinaires qui interviennent
ou... Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Un vétérinaire okay. spécialisé. Okay. Ouais.
Et du coup, ça va être les mêmes granules que pour...
Oui,
ouais, okay.
Oui, donc, que je vais acheter en pharmacie.
Tu te cognes, t'as de l'arnica voilà. à la bergerie. Quoi.
Ah, c'est ce que j'utilise le plus.
L'arnica. Ok. Si tout était possible, tu changerais quoi sur ta ferme?
Je changerais peut-être les champs vallonnés qui ouais. sont un peu plus plats. Et peut-être être plus proche de la ville, ouais. quoi, être moins isolé.
Ouais, d'accord. Parce que du coup, là, pour aller à Millau, tu mets combien de temps, à peu près?
35 minutes. Hein.
Ouais.
Mais c'est à peu près équivalent entre okay. Millau et Rodez.
Donc ça veut dire que tes enfants, quand ils sont partis donc collège, j'imagine que ça devait aller encore un.
Pont-Salard, ouais.
Et après, par contre, ils étaient obligés d'être internes.
Et oui, oui, ouais. oui. Ouais, ouais.
D'accord, ouais. Oui, forcément, ça les fait partir tôt, ouais.
Et oui. Oui, c'est sûr que pour les enfants, ouais, c'est pas pareil qu'une vie à la ville, ouais. mais bon.
Tu sais si tes enfants, ils ont envie de devenir agriculteurs ou pas du tout?
Alors, l'aînée, non, je ouais. pense pas, puisqu'elle finit là, elle est en école d'ingénieur et ça, c'est sa dernière année, donc voilà, je pense pas que ça l'intéresse, ouais. à part qu'elle
oui, revienne
un jour. Mais le plus jeune, donc, qui est en BTS agricole ouais. à Follabourg, oui, je pense que ça l'intéresse.
Et chez Tarnay.
Ouais. Aïe, aïe, aïe.
D'accord, ok. Et justement, vous en avez déjà discuté avec lui dans ses choix d'orientation sur le fait qu'il veuille aller sans lui mettre la pression, hein, mais de lui demander s'il avait envie ou si c'était que juste le secteur...
Oui, après, on lui dit qu'il faut qu'il aille voir ailleurs, oui. que voilà, ouais. qu'il se fasse son idée et qu'encore il est jeune, voilà. Et encore, pour nous, il n'y a pas la place dans l'exploitation,
oui.
si tu veux, pour qu'il s'installe. Donc,
c'est une bonne raison pour qu'il aille voir ailleurs.
Oui, voilà.
Ouais.
Et de ne pas, moi je me vois pas me charger pour qu'il s'installe,
oui,
tu vois.
Et après le lui laisser.
Voilà, c'est ça.
L'idée de potentiellement travailler avec son fils plus tard, ça te réjouit ou tu te dis ça risque d'être chaud?
Ah, je sais pas. Non, pas chaud parce qu'on s'entend bien, ouais. quoi. On s'entend bien et ça se passe bien. Il nous aide, tu
oui,
vois.
Oui,
là,
j'imagine,
c'est les vacances.
Ouais.
Ils sont en train de semer et je pense qu'il est sur un tracteur là, ouais. à ce moment. Donc oui, il nous aide, il aime ça, quoi. Donc.
D'accord.
Et ça se passe bien, ouais.
Ok. Tu l'as dit un peu au début, tu es engagée, toi, du coup, tu es engagée à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton engagement et qu'est-ce que tu y fais, pourquoi et voilà.
Alors, à la MSA, je suis d'abord déléguée. Mmh. Donc, il y a des délégués, en fait, partout sur le territoire de la France. Donc, j'ai été élue déléguée par des agriculteurs. J'ai été élue... au collège agriculteur, ouais. parce qu'il y a trois collèges. Il y a un collège agriculteur, un collège salarié agricole et un collège employeur de main-d'œuvre. Et donc après, quand j'ai été élue déléguée, j'ai été élue administrateur de la Caisse Midi-Pyrénées-Nord. Donc on est 10 administrateurs avéronnais.
Ouais.
Et après, il y a 10 administrateurs dans le Lot, dans le Tarn-et-Garonne et dans le Tarn. Ouais. Donc on est 40 en tout. Et donc là, je représente les agriculteurs... dans cette instance.
D'accord. Et concrètement, au quotidien, ça t'amène à avoir quel genre de relation avec les agriculteurs, avec la MSA? Enfin, qu'est-ce que tu
ouais.
fais
C'est surtout être le relais entre ouais. les agriculteurs et la MSA, parce que bon, parfois, il y a des difficultés rencontrées avec l'institution ou des gens qui sont en mal-être ou qui ouais. ont besoin voilà, d'aide pour... pour de la prévention, par exemple, ouais. prévention des risques professionnels, etc. Donc moi, je peux faire le lien, et puis voilà, après, être engagée aussi avec les OPA
ouais.
pour un certain nombre de dossiers.
Mmh, d'accord. Parce que du coup, juste pour expliquer un peu aux gens qui ne connaissent pas, la MSA, il y a une partie, en gros, pour les agriculteurs, c'est la Sécu et la CAF.
Et oui.
Voilà, et c'est mélangé dans un seul, donc ça veut dire qu'il y a une partie où on va payer des prestations et on va recevoir la santé qui va être payé, et il y a une partie où c'est les allocations familiales, et c'est aussi toute la partie suivi plus sociale de l'agriculteur.
Ouais, et en fait, la MSA, c'est le guichet unique, donc
oui.
ça nous concerne de la naissance à la mort. Oui. C'est-à-dire que, oui, voilà, comme tu disais, ça remplace aussi la CAF, ça remplace la CNAM, tout ce qui ouais. est assurance vieillesse oui. aussi. Donc voilà, ça nous suit tout au long de notre vie et ben, c'est la protection sociale de l'agriculteur. Et c'est aussi le suivi social.
Ok, donc on va forcément parler d'un sujet, on en entend pas mal parler, c'est le mal-être des agriculteurs. C'est aussi pour ça qu'on fait le podcast, c'est pour montrer qu'il y en a plein qui sont très heureux aussi, heureusement. La MSA, elle a un rôle important dans cette partie-là, de suivi des agriculteurs qui se sentent soit un peu seuls, soit en difficulté, soit isolés. Comment concrètement au quotidien toi tu fais pour suivre ou tu suis ce genre de dossier ou comment la MSA intervient auprès de ces gens-là, comment ça se passe?
Ouais, mais comme je te disais la MSA c'est un réseau de délégués, donc c'est vrai que comme on a des délégués sur tout le territoire, ils sont là aussi pour lancer l'alerte quand ils ont un voisin qui est en difficulté et ça peut être comme ça qu'on voit qu'il y a une personne qui a besoin d'aide, mais c'est pas toujours simple parce que des fois, même qu'on soit très proche, on rate. Mais voilà, ça permet de faire ce lien et de rapprocher peut-être les personnes en difficulté du service social ou.
Oui, parce qu'après la MSA, une fois qu'une personne est identifiée, elle a tout un tas de services pour venir en aide. Elle a des dispositifs qui permettent aux agriculteurs de prendre du temps pour eux.
Et il peut y avoir aussi une prise en charge psychologique qui est. Proposé par la MSA.
Nous, ce qu'on voit à notre échelle, c'est que souvent la MSA, en fait, elle a des actions qui essaient de répondre très localement à des problématiques. Oui. Quand il y a eu pas mal d'attaques de loups sur le Larzac, on a vu des éleveurs qui étaient très marqués par les attaques et la MSA a proposé des groupes de parole. Et est-ce que du coup, c'est justement le rôle du délégué d'essayer de percevoir ces signaux-là de difficultés un peu plus collectifs pour qu'après les services les salariés de la MSA répondent par une action.
Oui, et puis les délégués, ils sont organisés en comités territoriaux, donc ils se réunissent. Ils se réunissent plusieurs fois dans l'année et ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils voudraient porter ou quelles sont les problématiques sur leur territoire et qu'est-ce qu'ils voudraient faire pour y répondre. Voilà. Et ils ont quand même des possibilités, quoi. On leur donne des possibilités. Ils peuvent aussi organiser des actions en partenariat avec d'autres OPA. Voilà. Il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Voilà. Et on est là pour les aider, quoi. Ouais. On a des animateurs aussi à la MSA pour les aider à monter des projets.
J'ai fait un podcast avec Gabriel qui était agent de SR et du coup qui intervenait parfois sur des exploitations où il y avait eu des accidents ou des choses comme ça. Et la MSA, à ce moment-là, vous êtes en lien avec le service remplacement quand il y a des accidents du travail, il y a des choses comme ça qui se font. Est-ce que ça s'articule finalement? Quand il y a un agriculteur qui a un accident, qui chute, est-ce que vous êtes informé? Est-ce que quand l'agriculteur il est remplacé, la MSA peut payer son remplacement? Ces trucs-là. Est-ce qu'il y a un lien en fait qui se fait, si tu veux, entre le fait qu'il a eu un accident professionnel?
Le lien il se fait, mais en off. Souvent on s'appelle.
Si vous entendez qu'il y a un accident, j'imagine que vous allez essayer assez rapidement de savoir si quelqu'un peut faire la traite le soir,
Ouais, ça c'est plus le service remplacement qui va, parce qu'il faut qu'il y ait un suivi, il faut que l'assistante sociale se déplace.
Ouais, d'accord. Et du coup, ton fils qui te voit t'engager, qui est jeune, qui a sûrement très envie de faire du tracteur toute la journée et de pas trop réfléchir à sa santé, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu l'alertes? Tu lui dis qu'il faut qu'il soit un peu, parce que du coup, toi, tu vois la prévention des risques que la MSA peut faire.
C'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Par exemple, la conduite du tracteur, comme t'as vu.
Ah oui, ça penche vraiment beaucoup.
Et le premier risque au niveau MSA, quoi, le premier risque, c'est les accidents de tracteur. Et c'est des risques mortels, quoi. Ouais. C'est des accidents mortels qui arrivent. Et c'est la première cause d'accident. Donc c'est important de dire sois prudent, attache ta ceinture. Alors il y a quand même des messages à passer. Après c'est vrai qu'en prévention des risques professionnels, c'est aussi les bâtiments. Quand on veut concevoir un bâtiment, par exemple un GIA, se faire aider par un préventeur, c'est important parce que
ça s'appelle un préventeur.
Oui.
Ah, c'est rigolo.
C'est important parce qu'il va te dire par où tu devrais passer pour te simplifier la vie, pour porter le moins de charges, comment tu devrais faire. Et par rapport à cette, il peut venir sur place, le préventeur, voir avec la personne, et il peut préconiser certaines choses ont changé.
Génial.
Par exemple, si c'est un bâtiment neuf, il peut te dire, bon, mais voilà, tu pourrais faire comme ci ou comme ça. Et après, donc, il peut y avoir un contrat d'accompagnement et la MSA peut aider à financer les changements ou la construction.
Quoi. D'accord, ouais. Voilà. Oui, parce que ce qu'on ne dit souvent pas, c'est que, peut-être un peu plus sur la traite, mais sur les gestes répétitifs comme ça, ça crée énormément de problèmes squelettiques.
Quoi. Oui, les troubles.
Ce qu'on appelle les treilleurs. Ce qu'on appelle les treilleurs, en général, ils ont.
Donc être à la bonne hauteur, voilà. Il y a plein de choses.
C'est pas rare qu'un agriculteur qui traite ait des prothèses d'épaule à un certain moment de sa vie. Quoi.
Oui, d'ailleurs, il y a des études sur ça, là, sur les. Comment on appelle ça?
Les exosquelettes, ouais.
Les exosquelettes, voilà. Ouais. En fait, la MSA, c'est surtout... il faut savoir que c'est 1 euro cotisé représente 3 euros reversés dans notre caisse. Donc, c'est important.
Et sur d'autres caisses, c'est pas la même chose?
C'est à peu près ça.
D'accord.
Mais nous, c'est même plus de 3 euros.
D'accord.
Donc, c'est important de l'avoir en tête parce que souvent, on pense aux cotisations. Ouais. Mais derrière une cotisation, il y a aussi des prestations, que ce soit la retraite, les prestations familiales, les indemnités journalières... les aides ponctuelles au remplacement ou extra-légales, il y en a plein d'autres. Donc,
Et du coup, alors juste sur ça, on a vu, enfin moi, dans le podcast, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient engagés dans différentes structures, donc des syndicats, des coopératives. Et finalement, toi, de représenter un syndicat qui prend de l'argent aux agriculteurs, est-ce que c'est pas un peu difficile aussi des fois par rapport à tes collègues agriculteurs? Est-ce que des fois t'es pas un peu bousculé par rapport à
ça? Non, maintenant pour moi c'est pas difficile parce que j'ai la réponse, quoi.
D'accord.
Comme je viens de te le dire, donc pour moi la MSA c'est très important et d'ailleurs cotiser c'est très important parce qu'il faut que les agriculteurs y pensent à leur retraite. Moins ils cotisent, plus ils auront une petite retraite. Donc je pense qu'il faut pas raisonner en se disant faut pas cotiser, quoi.
Oui.
Il faut cotiser le plus possible.
OK, d'accord.
Pour l'avenir.
T'as pas choisi la voie la plus facile de l'engagement, on va dire.
Non.
Mais au moins.
C'est la voie qui me plaît.
Le côté
social me plaît.
C'est ça. Mais comme tu l'as dit, t'avais travaillé dans le domaine social avant. Ouais. Si t'avais alors tu as dit que tu prenais des vacances, mais si tu avais une semaine de totale liberté où tu ne devais pas t'occuper de la ferme, où tu ne dois pas y penser, qu'est-ce que tu ferais? Tu partirais où?
Moi, je partirais, je sais pas où. Dans un pays chaud.
Ouais. Je comprends.
Ouais, c'est surtout de pas avoir en tête, parce qu'en fait, c'est la charge mentale, je pense, qu'on a qui est difficile à, tu vois. Parce que même qu'on parte, on pense, ah oui, alors est-ce que celui qui nous remplace, il aura donné au brebis, est-ce que voilà. Et comme tu dis, avoir une semaine où on pensera pas du tout à ça, ça c'est bien, quoi.
Ouais, finalement, même en vacances, c'est un peu dur de décrocher.
Un petit peu. Ça dépend les périodes. Ouais. On part souvent à une période où il n'y a pas beaucoup de travail, donc aussi quand même, on arrive
à décrocher, ouais.
Ouais.
Je vais te poser 4 petites questions rapides où il faut répondre du tac au tac. Le dernier film que tu as aimé?
Le film là de Simone Veil. Simone,
ouais, voilà. Ouais. C'est Simone. Ok. La dernière chose que tu as acheté pour ton métier?
Alors là.
T'as pas fait le chèque là dans les papiers?
De café.
Très bonne réponse. La dernière musique que tu as fredonnée?
La musique de Jane là en ce moment, elle fait que passer à la radio et je l'ai dans la tête.
Et la dernière recherche Google que tu as faite?
Une source à nom que je parlais à mon fils. Il y a une source d'eau dans le Tarn et je savais pas où c'était. J'ai cherché ça hier.
Ok. qu'est-ce qui te rend fière aujourd'hui?
D'avoir réussi ma vie quand même, voilà, d'avoir bien élevé mes enfants, d'en avoir profité, d'être heureuse en couple, d'être heureuse dans mon métier. Voilà, ça c'est...
Ça te rend fière, c'est bien. Quand tes arrière-petits-enfants te demanderont à 95 ans qu'est-ce que c'était ton métier, tu leur répondras quoi?
C'était la vie.
Ok, trop bien. À celui qui écoute et qui connaît rien, tu voudrais lui dire quoi?
J'aimerais qu'ils viennent, en fait, et qu'ils partagent ça avec nous pour se rendre compte de ce que c'est. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se font une idée de ce qu'on fait et de comment on le fait. Et je pense qu'il faut qu'ils viennent avec nous le faire pour vraiment se rendre compte. Ouais.
Ça arrive que tu aies des gens qui viennent sur ta ferme?
Parfois. Alors ma fille là qui est dans les études les étés maintenant là, elle a plein de copains qui viennent.
Ouais.
Et en fait c'est super intéressant parce qu'ils posent plein de questions et en fait ils sont très ouverts et ils ont pas de quoi. Je pense que les personnes négatives envers notre métier, il y en a très peu. Et c'est celles-là qui font mal, qui nous font du mal et qu'on passe souvent à celles-là. Mais tout autour, il y a plein de gens qui se rendent compte de ce qu'on fait et qui nous soutiennent. Quoi,
ouais. Qui, ouais, okay. C'est quoi les prochains défis que tu vas devoir relever sur ta ferme ?
Ben, arriver à continuer comme ça, ouais. Parce que, comme je t'ai dit, on est engagé en bio, donc ouais. Bon, pour nous, ça nous tient à cœur, quoi. Vraiment, on s'y retrouve dans le bio, même si, comme je te disais, c'est ouais. assez récent, on se voit pas revenir en arrière,
ouais.
Donc le défi, c'est ça, c'est de continuer comme ça.
Le bio, ça veut... En fait, on a un peu plein de sons de cloche sur le bio qui sont très différents. Alors, on dit qu'il faut pas opposer le bio et le conventionnel. Il y en a qui nous disent que le marché du bio est un peu en crise. Il y en a qui ne voient que par le bio. Comment est-ce que toi, le fait d'être en bio, tu le vis ? Est-ce que c'est une conviction très forte ? Enfin, vraiment, c'était important. Est-ce que c'est aussi l'alliance entre le pragmatisme d'un territoire qui s'y adapte ? Je sais pas, comment tu expliques le bio quand tu dois en parler
Alors, moi, je pense qu'actuellement, ouais, c'est difficile quand même, parce que voilà, on est en période de crise, d'inflation. Le consommateur, il a pas l'argent pour payer le bio, tu vois, il va se rabattre. Même quelqu'un qui achetait du bio, il y en a certains qui n'achètent plus du bio ou moins, parce qu'ils peuvent pas, quoi. Et voilà. Après, moi, je suis confiante sur le bio, parce que je pense qu'il faut qu'on aille vers ça. On voit tous les jours le changement climatique et tout ça. On peut pas. Il faut qu'on se rende compte de ça. Pour les générations futures, moi je pense que c'est important que le pas il est pas si grand que ça, comme je te disais, à franchir, et que nous on doit innover, les agriculteurs, on doit en passer par là. C'est important, quoi. Ouais. C'est très important.
Pour toi, c'est une source d'innovation, c'est une façon d'innover, en fait.
C'est une façon ouais. d'innover, ouais. Pour la planète, pour aussi nous, l'image qu'on retourne aux autres. Et la fierté du métier. Moi, je sais que je suis encore plus fière de mon métier depuis que je suis en bio.
D'accord. Dans 20 ans, tu t'imagines où et comment ?
Dans 20 ans, je serai là. J'espère
sur
bien.
Sur ta terrasse, regarde ce joli pré en pente en face.
J'espère bien que je serai là. Je sais pas, j'espère que oui. Comme tu me parlais de mon fils, et peut-être, ouais.
Tu le regarderas
idéalement, je le regarderai passer, ouais. Je serai contente. Et puis, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Et...
Ouais, ça te fait pas souci la transmission, tu te dis que ça.
Non, parce que moi je suis pas tant attachée. Ouais. En fait, ça m'a choquée quand je suis arrivée ici. C'est cet attachement au patrimoine qui est hyper fort. Et moi non, je veux pas ça. Ouais.
Et justement, toi qui en plus, alors ça on revient sur la MSA, c'est intéressant que tu dis ça. Je sais pas si c'est partout en France pareil, je l'ai pas forcément ressenti dans les podcasts, mais en tout cas, Massif Central. La terre, ah, être ouais. propriétaire de la terre, c'est pesant presque en fait. Ça, la fierté, enfin c'est l'autre face de la fierté d'être propriétaire, c'est que ça en devient un petit peu obsessionnel quoi. Mm-hmm. Comment, enfin toi qui n'es pas du milieu agricole, enfin originaire du milieu agricole, qui est engagé à la MSA, donc qui voit ces gens qui sont capables de se mettre à la tête dans des états pas possibles pour mm-hmm. de la terre, comment tu l'analyses et enfin comment tu le perçois ?
Quoi, l'analyser, c'est moi, comme je te dis, ça m'a toujours choqué, ça.
Ouais.
Ça m'a toujours choqué parce que c'est trop fort, c'est trop prégnant, c'est trop, oui, c'est la génération d'avant qui a un poids sur, moi je le vois sur mon mari, quoi. Il m'a fallu le faire cheminer, ouais. quoi, par rapport à ça. Et voilà, la terre, ça reste que de la terre et comment l'expliquer, ouais. je sais pas. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer.
Non, mais c'est particulier, ouais. c'est difficilement explicable. Ouais. Ouais. Dernière question, comment tu t'y sens dans tes bottes ?
Oh, je m'y sens bien, ouais. Ouais, ouais. C'est un refuge aussi, ouais, d'être ici, quoi. Tu vois, comme je te disais, j'aime partir, mais j'aime revenir.
C'est là, si, si.
C'est ressourçant, ouais. quoi. Ouais.
Ok, merci Nathalie.
Merci à toi.
On peut avoir grandi dans une petite ville et avoir trouvé son équilibre à la campagne. On peut avoir fait une licence de biologie et avoir repris ses études pour valider un bac agricole. On peut avouer que le métier d'agriculteur a des contraintes, mais qu'il permet aussi de voir grandir ses enfants. Enfin, on peut soigner ses brebis avec de l'arnica montana en 9 CH et de l'apis mellifica en 15 CH. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt, dans de nouvelles bottes.